Pamphy, rue des Écoles, Louise Touré.
Et oui, on passe, le temps passe sur France Culture. Il est 15h50 et c'est le grand amphi de Marie-Caroline Missire. Alors, lancé l'an dernier par l'ex-secrétaire d'État Geneviève Fioraso, les pépites pour Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, magnifique acronyme encore, ces pépites donc sont censées fournir une réponse au chômage des jeunes en offrant un cadre aux étudiants qui veulent lancer leur activité.
Où en est-on aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Ce véhicule institutionnel, qui sur le papier repose sur la collaboration entre les universités et les écoles, fonctionne-t-il? Ce serait même la première fois que ces deux mondes collaborent, travaillent dans le même sens, pour améliorer l'insertion professionnelle des étudiants. Jean-Pierre Boissin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'IAE de Grenoble et c'est vous qui êtes chargé de coordonner au niveau national cette mission et ces pôles universitaires, ces pépites. Comme on rappelle l'acronyme, miser sur l'entrepreneuriat aujourd'hui pour fournir une réponse au chômage des jeunes, comme on l'a dit, est-ce que c'est pas un peu souligner l'impuissance de l'État et de l'enseignement supérieur?
Donc tout d'abord, ce sont des pôles d'enseignement supérieur et pas des universités. Comme vous l'avez dit, ça regroupe les universités et les grandes écoles, et une fois n'est pas coutume, et on y arrive. La deuxième chose que je voudrais corriger, c'est que on n'a pas créé des pépites où on ne fait pas d'entrepreneuriat. Moi, je suis enseignant-chercheur pour résoudre les problèmes du chômage des jeunes.
Bah, c'est quand même un peu paradoxal que l'entrepreneuriat, cette thématique se développe et beaucoup d'écho aujourd'hui dans les écoles et dans les universités. On est quand même à un moment de crise économique majeure et de chômage des jeunes qui ne fait que s'aggraver, vous le savez bien.
Qu'on ait plus d'écoute, c'est une chose, mais le développement de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur, c'est, j'ai envie de dire, un combat d'enseignants-chercheurs depuis 20 ou 30 ans. Il y a plus d'écoute aujourd'hui parce qu'il y a un contexte économique qui s'y prête certainement. Il y a aussi une évolution énorme de la société et... Pour être un peu humble, je vous dirais qu'aujourd'hui, les jeunes ont envie d'entreprendre, par-delà, y compris notre influence ou ce qu'on a essayé de faire, tout simplement parce que le numérique se développe et que des jeunes de Bac plus 5 qui ont des propositions d'emploi veulent créer des entreprises, pas du tout par rapport à une réponse à un problème d'insertion professionnelle. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, si on développe l'entrepreneuriat, notre mobile aussi, c'est de dire que ça peut être un vecteur d'insertion professionnelle en espérant que le marché du travail, y compris pour être salarié, souhaite embaucher des jeunes qui aient un esprit entrepreneurial, parce que même si vous êtes à Radio France par exemple, le dirigeant de Radio France peut avoir envie d'avoir des gens qui l'entourent autour de lui, qui soient capables de monter des projets, conduire des projets entrepreneuriaux, parce qu'on parle d'intrapreneuriat. Donc notre première mission, c'est développer l'esprit d'entreprendre.
Et concrètement,
la création
d'entreprise,
ce sera qu'un épiphénomène en nombre, par exemple, chez les jeunes.
Et à quoi ressemblent ces pôles? Donc, c'est un cadre institutionnel qui permet aux jeunes d'avoir à la fois des cours, des coachs. Qu'est-ce qu'on leur apporte dans ces
pôles? Il y a 29 pôles qui ont été créés en France sur les grands sites d'enseignement supérieur. En province, c'est plus simple qu'à Paris, donc c'est avant tout des pôles, un par région. Globalement, sur les grands sites d'enseignement supérieur, et qui sont là tout simplement par rapport aux mesures qui avaient été annoncées par la ministre. Un, que l'entrepreneuriat et l'innovation devaient entrer dans les maquettes pédagogiques. Donc il faut que ces pôles trouvent des ressources humaines pour des intervenants, pour trouver des entrepreneurs pour des témoignages, pour trouver des entrepreneurs dans leur diversité. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que des start-up technologiques, c'est aussi l'économie sociale et solidaire, et qu'il faut qu'on réponde aussi à l'appétence des jeunes et de leurs envies. Donc ça, c'était une des premières mesures. La deuxième, il y a un prix pépite qui permet de récompenser des projets qui sont développés par les étudiants, et surtout le statut étudiant-entrepreneur qui est mis en place depuis septembre 2014. Et que là-dessus, c'est le rôle des pépites d'être centre d'information, centre de ressources pédagogiques pour les établissements, et c'est pour ça qu'on essaye de le faire au niveau de l'ensemble des établissements d'un site, c'est-à-dire avoir des économies d'échelle, des effets d'expérience entre les enseignants et entre les établissements. Et le troisième point, c'est pour le statut d'étudiant entrepreneur.
Alors, ces pépites rajoutent un petit peu une couche au millefeuille de l'enseignement supérieur, qui est déjà assez conséquent. Les étudiants s'y retrouvent-ils? Est-ce qu'ils sont correctement informés de l'existence de ce cadre un petit peu nouveau?
Alors, oui, deux réponses. C'est pas nécessairement un millefeuille, puisque justement, ça a été de dire, on va pas ajouter des modules autour des maquettes pédagogiques, mais c'est à intégrer dans les maquettes pédagogiques. C'est-à-dire que les modules en entrepreneuriat et innovation doivent être intégrés dans les ECTS. Les ECTS, chaque étudiant doit avoir des crédits dans son diplôme, et ça doit être intégré comme des crédits dans le cadre de sa formation, qu'il soit en lettres, qu'il soit en école d'ingénieur, qu'il soit en école de commerce. C'est pour l'ensemble des étudiants français. Et donc, l'idée du millefeuille, c'est justement, je pense qu'aujourd'hui l'État, pour des raisons de contraintes y compris budgétaires, ne fera pas du millefeuille sur des opérations de ce type. Et ensuite, et c'est pour ça que je suis là, sur l'information, c'est très difficile. Ça, c'est très clair. C'est très difficile d'accéder aux étudiants. Alors, il y a des mailing lists, il y a tout ce qu'on veut. Sauf que les étudiants sont beaucoup sur les réseaux sociaux, que c'est pas tout à fait notre culture.
Vous les utilisez ou pas?
Eh bien, on s'efforce de rentrer sur Twitter. On découvre. Personnellement, voilà, je connaissais pas Twitter il y a encore 12 mois. Donc, je découvre, je fais des bêtises. Des fois, je crois répondre à quelqu'un, je réponds à tout le monde ou au monde entier.
Oui.
Mais bon, c'est un apprentissage. Facebook, j'y arriverai pas, je crois. J'ai un petit blocage culturel. Mais donc, effectivement, et là, on s'emploie. Il va y avoir des développements. Un programme d'investissement d'avenir. Et donc, où il y a eu un appel à projet qui est sorti récemment. Et dans ces réponses qui ont été faites, il y a quand même l'idée de développer du numérique, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit des plateformes de mise en relation des étudiants entrepreneurs et autres.
Jean-Pierre Boissin, on mesure en vous écoutant, le grand fossé culturel entre des représentations que je peux avoir moi, spécialiste de l'éducation, représentation de l'université, qui serait pas un sanctuaire, mais au moins une maison du savoir, des savoirs les plus fondamentaux, de la recherche aussi, l'âpre recherche désintéressée, gratuite, même si à la fin, bien sûr, il faut gagner sa vie. Et puis, le discours que vous avez, alors entrepreneurial, on n'est pas uniquement dans l'entrepreneuriat privé, j'ai bien entendu, il y a aussi l'entrepreneuriat social, mais voilà quelque chose où les finalités sont très concrètes, formulées de manière relativement brutale, et on s'éloigne de cette culture du savoir. Alors, je suis pas dans une logique de la pureté, c'est pas du tout ce que je suis en train d'essayer de dire, mais on vide aussi l'université de son sens quand on ne s'intéresse plus qu'aux finalités et plus tellement à la transmission.
Alors je vous rassure, tous les enseignants-chercheurs ne sont pas tous préoccupés par l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça concerne quelques centaines d'enseignants-chercheurs en France. Après, on a des partenaires. Il y a des partenaires extérieurs au monde de l'université. Moi, je suis professeur en management. Ma vocation est quand même d'être en lien un peu avec ce qui se passe dehors de l'université ou des grandes écoles, parce que c'est quand même des intervenants ont les mêmes formations, les enseignants-chercheurs, et c'est pas parce que on se rapproche de la demande sociale des étudiants qu'on se coupe. J'estime, il y a un concept qui a été lancé il y a 2 ans, qui est le transfert, plutôt que la valorisation, moi je préfère. Et le matin, quand je me lève, j'aime bien savoir pourquoi je me lève. Et si le bon transfert, c'est d'aider un jeune à pouvoir créer son entreprise et lui dire, le rassurer parce que c'est pendant ses études, et lui dire avec le statut étudiant-entrepreneur, on va éviter que tu aies des problèmes de réussite de tes études. Ou, deuxième cas, les diplômés ne sont pas pris en charge par les organismes comme Pôle emploi quand ils sortent de leurs études en tant que d'avoir des indemnités, etc. On leur offre une nouvelle couverture sociale en s'inscrivant à nouveau dans l'enseignement supérieur. Pour nous, c'est un enjeu important et ça nous permet de savoir pourquoi on se lève le matin.
Jean-Pierre Boissin, merci beaucoup d'être venu nous voir
pour cette réponse très concrète également.